accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, le débat agite la chrétienté en Europe. Quelle place pour les femmes dans l'Église aujourd'hui? Anglicans, catholiques, protestants, les différentes chapelles européennes ne sont pas toutes d'accord. Il y a quelques semaines, une théologienne française, Anne Soupa, mettait les pieds dans le bénitier en postulant au poste d'archevêque de Lyon. « Nous voulons tout, même pouvoir être pape », a-t-elle lancé, nouveau signe de l'urgence de résoudre cette question. Depuis avril, une nouvelle commission instaurée par le pape François planche là-dessus. Mais l'opposition de Rome à l'ordination des femmes est très forte, Francine Beretti.
C'est un débat qui revient sans cesse dans l'actualité vaticane des dernières années. En 2016 déjà, une commission avait été créée à la demande de religieuses du monde entier. Elle devait examiner le rôle des femmes diacres des premiers siècles de l'Église catholique. Ces femmes préparaient au baptême, assistaient les mères au moment des naissances, accompagnaient les malades. Tout le monde s'accorde sur leur importance dans la vie de l'Église. Mais la commission s'est divisée sur des questions historiques entre ceux estimant que ces diaconesses étaient ordonnées, c'était donc des ecclésiastiques, et ceux pour qui elles restaient des laïcs. Il y a un an, les prêtres d'Amazonie demandent au pape François de se pencher à nouveau sur le rôle des femmes. Cette immense région d'Amérique est pauvre en prêtres et la communauté catholique manque de représentants pour procéder au baptême ou aux onctions. Pourquoi dans ce cas ne pas ordonner des hommes mariés ou nommer des femmes diacres, le degré en dessous des prêtres? Le pape tranche, c'est non. Mais il s'engage à convoquer une nouvelle commission sur l'intégration des femmes dans l'Église. 5 hommes et 5 femmes, essentiellement des laïcs, y réfléchissent donc en ce moment. Cela pourrait aboutir à l'ouverture du ministère de diacre aux femmes, ou bien à la création d'un ministère à part, un ministère laïque, ou à rien du tout. L'Église allemande a mis un ultime coup de pression il y a un mois. Le président de la conférence épiscopale s'est dit favorable à l'ordination diaconale des femmes.
Direction l'Allemagne, justement, où l'Église catholique a lancé une très ambitieuse discussion en début d'année. Pendant 2 ans, des laïcs et des membres du clergé s'engagent dans une grande conférence épiscopale. L'objectif, moderniser l'Église allemande. 4 grands sujets sont au programme, le pouvoir et sa répartition au sein d'Église, la vie sacerdotale, la place des femmes et l'amour et la sexualité. Vaste programme donc, qui doit rétablir la confiance dans une Église touchée par de nombreux scandales. Le reportage de Julien Méchaussy.
Fin janvier dernier, l'Église catholique allemande ouvre une longue période de débats et de dialogues. Et le défi est immense, comme le souligne le prêtre Michael Dörnemann lors d'une récente messe tenue en Hesse, dans le centre du pays.
Dieu sait que nous sommes arrivés à un point critique. Aujourd'hui, seuls 14% des Allemands jugent encore crédible l'action de l'Église catholique.
Rien que sur l'année 2019, plus de 270 000 catholiques allemands ont décidé de quitter l'Église et de ne plus payer l'impôt ecclésiastique. Un chiffre quasi identique chez les protestants entre scandales d'abus sexuels et financiers, l'image de l'Église ne cesse de se détériorer. Il y a 2 ans, un rapport affirmait que 1670 clercs avaient abusé près de 4000 enfants, et ce sur une période s'étalant sur 70 ans. En proportion, cela représente presque 5% des clercs allemands mis en cause. Et pour Michael Dörnemann, ce chemin synodal sonne comme la conférence de la dernière chance.
Ce serait catastrophique si tout ce processus enclenché venait à ne déboucher sur rien. Nous avons eu tellement de conférences, de réunions ces dernières années qui n'ont rien apporté. Il faut vraiment que les choses changent.
Au cœur de débats malheureusement mis en parenthèse à cause de la crise sanitaire, la place et le rôle des femmes. Une urgence absolue selon Mechthild Heil, présidente de la communauté des femmes catholiques allemandes.
Dans le monde réel, au sein de nos démocraties européennes, l'égalité homme-femme se vit au quotidien, même s'il reste encore des progrès à faire. Et l'Église catholique est aujourd'hui à mille lieues de cette réalité. D'un autre côté, l'histoire nous démontre que l'Église a toujours su s'adapter à ce que voulait la société. Il est temps que les choses bougent et que l'Église comprenne l'importance des valeurs démocratiques et d'égalité entre les sexes.
D'autant que ce sont bien souvent les femmes qui font vivre les paroisses. Ce sont elles qui effectuent par exemple la grande part des tâches administratives ou encore qui organisent les actions caritatives comme les distributions de repas pour les sans-abri. Avec ce constat largement partagé, sans les femmes, l'Église ne pourrait plus fonctionner. D'où l'absurdité d'interdire l'ordination des femmes, d'après Katharina Nordpoth, présidente de la Fédération des jeunes catholiques allemands et membre de l'Assemblée synodale.
Nous souhaitons par exemple que les femmes puissent procéder à des mariages ou des baptêmes au sein de l'Église. Ce chemin synodal doit nous permettre de renforcer le plus possible le rôle des femmes. Et nous essayons de donner le bon exemple en mettant en avant le rôle des femmes également au sein des fédérations de croyants.
Parmi ces fédérations, nombreuses sont celles à appeler également à l'ouverture de la prêtrise aux hommes mariés et aux homosexuels. Une soif de réforme qui devra cependant faire face à des résistances venues notamment directement du Vatican. Le pape François a déjà indiqué ne pas vouloir revenir sur le célibat des prêtres. Ce chemin synodal prendra fin au début de l'année 2022 et si son issue reste aujourd'hui incertaine, il a le mérite aux yeux de nombreux croyants de constituer enfin un véritable dialogue entre laïcs et clergés.
Dans ce débat sur la place des femmes, c'est l'Église anglicane au Royaume-Uni qui est la plus avancée. Depuis 1994 déjà, les femmes peuvent être prêtres. L'Église d'Angleterre a d'ailleurs une femme comme chef depuis 1952, puisque c'est la date de l'accession au trône de la reine Elisabeth II. Mais le rôle du sexe faible dans cette Église continue à la diviser, Marie Billon.
Quand en 2012, le synode général, le parlement ecclésial, a voté une nouvelle fois contre l'épiscopat des femmes, beaucoup d'évêques et d'archevêques ont estimé que c'était un triste jour pour l'Église d'Angleterre. Car dès 1994, la Church of England décide d'accorder la possibilité d'être prêtre aux femmes. Près de 20 ans plus tard, beaucoup, la société britannique avant tout, étaient donc prêts à passer à l'étape suivante. Ce vote négatif du synode a donc été perçu comme une erreur de communication au moment où l'Église perdait des fidèles. Comme beaucoup d'autres, elle n'avait pas l'air en osmose avec son temps. C'est finalement en 2014 que le synode a dit oui à l'épiscopat féminin. Mais l'autorité de la femme évêque n'est pas aussi incontestable que celle de l'homme évêque. Exemple, un prêtre peut demander à ne pas dépendre de son diocèse géographique s'il est dirigé par une femme. Sandra Schloss est prêtre depuis 6 ans. Pendant le confinement, elle est devenue prêtre en charge de la paroisse de Saint-Luc au sud de Londres. La cérémonie a eu lieu par Zoom, ce qui ne l'a pas gênée du tout. Au contraire, dit-elle, femme et noire dans un quartier pauvre, elle estime que l'Église d'Angleterre a besoin de se moderniser.
Je me sens bien acceptée maintenant. Je sais que certains ne voudront pas recevoir la communion de ma part parce que je suis une femme, mais ce n'est pas grave, on a un dispositif prévu pour ça avec l'évêque du diocèse qui peut venir la leur donner. Mais ça ne me dérange pas, je trouve ça bien que les gens puissent avoir leur propre opinion. Et si ce système à option, cette situation ne convient pas à certains, on sait que certains ont déjà quitté l'Église d'Angleterre pour rejoindre l'Église catholique de Rome. Moi, ce que j'aime dans l'Église d'Angleterre, c'est qu'il y a tout ce panel d'opinions et ces cultures si diverses. Elles représentent le monde mieux que d'autres églises.
L'Église d'Angleterre est une broad church, une église large, avec d'un côté les évangélistes protestants qui sont contre le ministère des femmes, car les textes bibliques n'en font pas mention, et de l'autre la haute église, où on trouve les anglo-catholiques, dont certains sont effectivement partis à Rome. En 2009, le pape Jean-Paul II a ainsi créé l'ordinaire pour les ex-prêtres anglicans qui sont déjà mariés mais veulent rejoindre l'église romaine par exemple. Car tout le monde n'est pas aussi ouvert que Sandra sur la question et ce débat du ministériat des femmes reste une profonde ligne de fissure dans l'église d'Angleterre qui parfois met en danger sa survie même. En effet, une autre question, celle des prêtres homosexuels, est aussi une cause de discorde.
Pour l'heure, les homosexuels peuvent devenir prêtres à condition de faire vœu de chasteté et ce même s'ils vivent en couple. Si l'Union européenne est majoritairement de culture chrétienne, le continent européen est d'une extrême diversité religieuse. Comment se portent ces différentes chapelles et la religion occupe-t-elle toujours une place centrale pour les citoyens européens ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec vous, Daniel Vigneron, bonjour.
Bonjour Léa Lisa.
Alors comment se répartissent les religions dans les pays de l'Union européenne ?
Eh bien, un peu moins de la moitié des Européens de l'UE se disent d'affiliation catholique, référence avant tout culturelle qui ne signifie ni croyance ni pratique religieuse. 16 pays de l'Union sur 28, si l'on comptabilise toujours le Royaume-Uni, sont ainsi à majorité catholique en Europe de l'Ouest et du Sud, Italie, Espagne, France, Belgique, Irlande, Portugal, mais aussi en Europe centrale, Pologne, Hongrie, Croatie, Autriche. En France, près d'un Français sur deux se rattache au catholicisme. C'est bien moins qu'en Espagne, 65%, et surtout qu'en Italie, 78%.
Qu'en est-il des protestants ?
Environ 12% des Européens font référence au protestantisme, nettement majoritaire en Scandinavie et en Lettonie. Enfin, 8% de la population de l'Union se réfère à l'orthodoxie majoritaire en Roumanie, Bulgarie, Grèce et à Chypre. Enfin, un dernier petit pays singulier, l'Estonie, où le nombre de protestants, de catholiques et d'orthodoxes s'équilibre à peu près.
Mais qu'en est-il des deux autres religions monothéistes que sont le judaïsme et l'islam ?
Aucun pays de l'UE n'abrite une population majoritairement musulmane, puisque l'Albanie ou la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne font pas partie de l'Union. En revanche, plusieurs États connaissent ou ont connu une forte immigration venant de pays d'obédience musulmane, France, Suède, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, etc. Et cette population y représente de 5 à 9% du total. Mais l'affiliation déclarée à la religion musulmane est moins élevée, entre 2 et 5%. Ce décalage n'est à vrai dire pas spécifique à l'islam, puisque dans de nombreux pays d'Europe occidentale, à l'exception de l'Italie et du Portugal, guère plus d'un tiers de ceux qui se déclarent chrétiens pratiquent leur religion, ne serait-ce que de façon occasionnelle.
C'est la même situation pour les citoyens de culture juive ?
Ces derniers constituent une minorité très réduite de la population, même en France, où ils sont de loin les mieux représentés, 490 000 personnes contre 290 000 en Grande-Bretagne et 105 000 en Allemagne.
Alors combien y a-t-il de non-croyants, Daniel, en Europe ?
On s'en doute, l'importance de ce groupe s'est considérablement accrue depuis un demi-siècle. On compte un gros quart des Européens ne se rattachant à aucune religion, qu'ils se disent athées ou bien agnostiques. Mais cette absence de référence religieuse est très réduite, moins de 15% dans plusieurs pays comme l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Irlande, la Pologne, la Croatie ou encore la Roumanie. L'irreligiosité est en revanche très forte, autour de 50% en Grèce, aux Pays-Bas et en République tchèque. Et les non-croyants sont également nombreux, au moins 40% en France. Surtout, la France est le pays qui, en Europe, compte le plus d'athées, plus de 20%, alors qu'ailleurs, les non-croyants sont principalement agnostiques.
Merci Daniel Vigneron, à bientôt.
À bientôt Léa-Lisa, et bonnes vacances.
En Russie, très majoritairement orthodoxe, l'Église joue aussi un rôle très politique. C'est ainsi qu'en juin, le chef des orthodoxes inaugurait une immense église dans la région de Moscou, un lieu de culte dédié aux forces armées russes et érigé à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. L'URSS a enregistré le bilan humain le plus lourd de la Seconde Guerre mondiale, estimé à 26 millions de morts. Et ces dernières années, la célébration de cette victoire n'a cessé de prendre de l'ampleur, au point de devenir le pilier idéologique de l'État. Les explications d'Étienne Bouche.
Le diamètre de la principale coupole mesure 19,45 m. Le clocher, lui, est situé à 75 mètres de hauteur. Année 1945, 75e anniversaire de la victoire, les références historiques sont claires. Les dimensions de cet édifice couleur kaki sont saturées de symboles. Le ministère de la Défense précise que l'alliage des dalles de l'entrée contient du métal provenant d'armes de la Wehrmacht. L'intérieur est fastueux et célèbre les principaux faits d'armes de la Russie. Dans un excès de zèle, ses concepteurs envisageaient d'y installer une mosaïque représentant Vladimir Poutine entouré des plus hauts responsables du pays. Une initiative qui avait embarrassé jusqu'au Kremlin. L'église a été érigée dans le parc Patriote, un site inauguré en 2015 dans la région de Moscou. Géré par le ministère de la Défense, ce parc d'exposition exhibe au public les capacités militaires de l'armée. Autour de l'église, une reconstitution d'un champ de bataille et un musée aux dimensions tout aussi inouïes. 35 salles retraçant les 1418 jours de la guerre, animation immersive à l'appui. Depuis l'annexion de la Crimée, le pouvoir russe entend plus que jamais faire de la Grande Guerre patriotique le ciment de l'unité nationale. Sauf que sa relecture exclusivement héroïque de l'histoire ne supporte aucune ombre ni réserve. Officiellement, Staline est le chef militaire ayant permis la victoire. Mais pas un mot sur ses échecs stratégiques, sur les exécutions sommaires, sur les peuples déportés, les Kalmouks, Tchétchènes, Tatars de Crimée, sur le sort des pays incorporés de force à l'URSS. Signe que l'État entend être maître de la mémoire, la protection de la vérité historique est inscrite dans la nouvelle constitution russe. Un amendement qui, selon le journal Novaya Gazeta, tue définitivement la liberté de penser en Russie.
C'est l'un des nombreux effets collatéraux du Covid-19. Depuis le début de la pandémie, télétravail oblige, les activités des institutions européennes tournent au ralenti. Une baisse d'activité qui entraîne à son tour une diminution de la demande de traduction. Pour les 1200 interprètes freelance de la Commission et du Parlement européen, c'est un coup dur. À Bruxelles, la journaliste de la RTBF, Alice Desbattis, a rencontré ces interprètes qui demandent un coup de pouce financier de l'Union européenne. Reportage.
À l'intérieur du Parlement européen, les va-et-vient reprennent, les activités s'intensifient. À la Commission, le collège de commissaires s'est réuni pour la deuxième fois en personne. Mais si la machine européenne se remet doucement en marche après la crise du Covid-19, certains sont toujours à la rue. Pancarte à la main, croix rouge dessinée sur la bouche, une cinquantaine d'interprètes manifestent dans le quartier européen. Svetlana, une interprète serbe, est venue faire entendre sa voix inaudible depuis le début de la crise.
On a l'impression que personne ne nous entend. Voilà. Donc on est là pour faire passer notre message en silence. Voilà. Pour attirer sur le fait qu'on a été muted.
Avec la baisse des activités des institutions pendant l'épidémie de coronavirus, la demande d'interprétation a chuté et le revenu des interprètes avec elle. Leurs contrats ont été annulés les uns derrière les autres. Ils sont des centaines à se retrouver sans revenu, comme Svetlana.
Alors mon dernier jour de travail, c'était le 23 février. Je n'ai pas travaillé depuis, ni pour les institutions, ni pour quelques employeurs autres que ce soit. Et c'est très très difficile. Je m'en sors parce que je suis têtue et donc je ne me permets pas d'être déprimée, mais c'est proche de cela assez souvent. Et puis je me sors en m'endettant.
S'ajoute à cette situation précaire la particularité du statut d'interprète des institutions. Employés par l'Union, la plupart d'entre eux ne peuvent bénéficier d'une aide au niveau national. C'est le cas de Dimitri, cet interprète grec travaille depuis 25 ans pour les institutions européennes.
Une rémunération est taxée à la source, donc on paye l'impôt communautaire. Et plusieurs d'entre nous ne sont pas inscrits comme indépendants ici, nous ne sommes pas obligés de le faire. Et donc nous n'avons aucune aide de la part du gouvernement belge, ce qui est normal dans ce cas bien entendu. Et nous avions espéré que les institutions feraient un geste pour nous.
Il y a quelques jours, les institutions ont fait une proposition, une avance de 1300 euros, remboursable par des prestations à prester d'ici la fin de l'année. Une gifle pour l'Association internationale des interprètes de conférences. Frédéric Girard est membre de la délégation de négociation.
Cette proposition a été considérée comme un camouflet, comme quelque chose d'humiliant. Enfin, je vous passe les qualificatifs qui ont été retenus. Mais donc, ça a créé beaucoup d'émoi. Et ça pose un problème, puisque la confiance a déjà été ébranlée par le fait que les institutions se sont rétractées des contrats qu'elles avaient signés, ce qu'elles n'avaient jamais fait de façon systématique de cette façon-là. Et en plus, elles n'ont rien proposé pour mitiger. Et quand nous avons insisté pour qu'elles proposent quelque chose pour mitiger la situation, ce qui a été proposé est clairement très loin du compte et indigne d'une relation de confiance d'une institution vis-à-vis d'interprètes qui ont des conventions depuis 50 ans et qui sont indispensables au multilinguisme qui est requis par les traités et dont les institutions auront besoin très rapidement. Donc il y a aussi, en plus de l'émoi, une incompréhension absolue.
Cette proposition de prêt a donc été rejetée. Les interprètes réclament aujourd'hui une aide d'urgence, le temps de faire face à la tempête du coronavirus.
Accent d'Europe était réalisé par Laurie Plisson aujourd'hui. Pour nous retrouver à toute heure et partout, rendez-vous sur notre podcast Accent d'Europe sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.